tonto.
Hello, bienvenue sur Bike FM dans l'émission Check Milo. Chaque vendredi, le métal fait son show sur le 106.1 et aujourd'hui, on va envoyer du lourd, du très lourd, car c'est un Check Milo exceptionnel qui vous attend. Un Check Milo spécial Weapons of Mass Percussion. D'ailleurs, et ça aussi, c'est exceptionnel, je vais pas être seul pour présenter cette émission puisque j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Apolline de l'émission Come On Everybody. Salut Apolline.
Salut.
Comment tu vas?
Bah, ça va très bien. Merci.
Eh ben, écoute, bienvenue dans Check Milo. C'est un plaisir de partager ce moment en ta compagnie. Et d'ailleurs, on n'est pas seul, hein, puisqu'avec nous dans le studio, on a un plateau d'invités que j'aurais jamais osé imaginer, à part peut-être dans mes rêves les plus fous, puisque nous sommes en compagnie de Dom des Tambours du Bronx,
salut,
de Stéphane Burier, frontman de Loadblast notamment, mais pas que, on en reparlera tout à l'heure.
Bien, bonsoir.
De Renaud, la voix de l'Ophophora.
Bonjour.
Mais pas que non plus, on en reparlera aussi tout à l'heure. Et de Frankie Costanza, le batteur de Blazing Wear Machine, que vous avez peut-être vu déjà aussi à Nevers, puisque avant il faisait partie du groupe Dagoba. Salut à tous, bah, merci aussi d'être avec nous dans les studios de Bike FM.
Bonjour Francky, mal poli.
Salut à tous. Voilà.
Alors Francky,
je voulais pas l'interrompre.
Francky, que j'avais eu le plaisir d'avoir en interview une fois, et j'avais dit que j'avais le batteur de Gojira, donc je m'en excuse encore une fois. Hein. Aujourd'hui ça va être une façon un petit peu de me rattraper.
Je t'en veux pas.
Je te remercie.
J'adore Mario.
C'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure.
Ah ouais, moi j'ai vu la grimace, c'était pas beau hein.
Eh bien écoutez, pour commencer, on va peut-être faire les présentations de ce projet Weapons of Mass Percussion. Et bah, pour ce faire, je vais laisser la parole à Apolline.
Eh bien merci. Alors première question, en quoi ça consiste ce projet Weapons of Mass Percussion?
Ben, tout est dans le titre, moi j'ai envie de dire. C'est un gros projet pour en mettre plein la gueule en fait, avec des bidons, des guitares, du chant. Et voilà, c'est une grosse sauvagerie à base de tambours et de guitares.
Et
d'invités spéciaux, et ça va être très métal.
Et donc ouais, le métal, vous avez déjà joué par exemple avec Sepultura dans un festival, et là vous êtes retourné un peu sur l'univers métal, alors pourquoi ce tournant?
On avait envie de se renouveler, on n'a pas fêté nos 30 ans, c'était l'année dernière, là c'est les 31 cette année, et on avait envie d'évoluer, on ne savait pas trop comment, parce qu'on a déjà fait un petit peu tout. Et les tambours, c'est toujours un groupe de rock dans nos têtes, et pour beaucoup un spectacle. Et en fait, on s'est dit qu'on allait tout simplement partir carrément sur un show vraiment, franchement rock'n'roll et se faire plaisir. Et que c'était vraiment un moyen de se renouveler. En même temps, on est en train de créer quelque chose de beaucoup plus théâtral pour peut-être l'année prochaine.
D'accord.
Et on avait aussi un petit arrière-goût d'inachevé avec Sepultura. On a fait quelques très 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 gros festivals, mais c'était difficile à vendre sur des plus petites dates. Et on s'est tellement éclaté à jouer avec des grosses guitares. C'est quand même notre univers.
Bah oui,
on s'est dit on va remettre ça. On avait Francky derrière nous qui nous a vraiment encouragé à aller dans cette voie. Puis après on a les copains là qui ont répondu présent pour nous aider à aller plus loin.
Alors justement, comment elle a commencé cette collaboration? Ça a commencé avec toi Francky, il me semble.
Oui, c'est ça en fait. Ça a commencé de façon assez rigolote, je vais dire. En tant que fan des tambours depuis des années, j'avais tout simplement commandé un DVD chez eux. Et je pense qu'il y avait des membres des tambours qui connaissaient Dagoba et mon nom. Et ils m'ont envoyé un petit mot avec le DVD qui disait « Bon, ben, si tu t'emmerdes avec Dagoba, on t'embauche. » Et c'est parti de là. Je leur ai répondu. Et ils m'ont dit « Ben, dans pas longtemps, on passe au silo à Marseille. Et est-ce que ça te dirait de nous rencontrer ?» J'ai dit « Ben, avec grand plaisir. » Et du coup, j'ai fait connaissance de Dom, de Will, d'un peu toute l'équipe. Et à partir de là, ils m'ont dit « On aime bien ce que tu fais en vidéo, les drum covers, les remixes. Est-ce que ça te dirait de revisiter un de nos titres à ta façon ?» Et donc, j'ai fait une vidéo de « Human Smile ».
Que tous les Nevers-sois connaissent, je pense.
C'est gentil.
Merci, Bac FM.
Et déjà, moi, même à distance, j'avais adoré jouer avec des tambours dans mon casque. Ça rajoutait une puissance que j'avais jamais rencontrée dans le métal, même si le métal est une musique déjà super puissante à la base. Mais ce côté tribal, ce côté minimaliste, cette énergie un peu primitive que j'adorais dans Sepultura. C'est pour ça que leur collaboration, je la trouve évidente et parfaite. Ben, je me suis régalé à jouer sur ce genre de musique. Et du coup, une fois que ce premier remix sort sur Internet, on a été pas mal encouragé par des amis communs, des fans qui nous ont dit ben, « Peut-être vous pouvez continuer à travailler dans ce sens-là. » Et du coup, on a dit « Bon, à distance, c'est cool, sur YouTube, c'est cool, mais il va falloir qu'on se rencontre vraiment et qu'on joue ensemble. Ouais. » Donc, j'ai eu aussi le plaisir de te rencontrer aussi.
Mais oui.
l'été dernier, pour jouer ensemble et concrétiser tout ça avec un clip sur Prodigy.
Ouais.
Et du coup, on a vraiment fait une première répétition ensemble, vraiment transpiré ensemble. Et du coup, j'ai vraiment été immergé dans l'univers des tambours. Et sincèrement, je me suis vraiment régalé. Donc, c'est parti un peu de là.
Et toi, donc, t'es le premier à avoir rejoint donc l'aventure. Et puis après, donc, nous avons deux autres invités. Je vous laisse en parler. Comment est-ce que ça s'est fait, en fait, la collaboration?
Ben, moi, c'est Dom qui m'appelle un jour. J'ai un coup de fil. D'habitude, je réponds pas quand c'est un numéro que je connais pas. Et là, j'ai bien fait décrocher. Et voilà, c'est Dom des Tambours du Bronx. On est sur un projet, sur un set plus métal où on a pris, il y a une partie des bidonneurs, y compris des guitares et la basse. Et voilà, et on aimerait un chanteur. Et on aimerait que ce soit toi, donc j'étais bah, déjà super flatté et puis hyper emballé par l'idée, quoi. Enfin voilà, même si je les connaissais pas personnellement, j'avais un souvenir d'une date en Ardèche il y a une bonne dizaine d'années où ça avait été vraiment le feu, où ça m'avait bien troué le cul. Et puis voilà, les Tambours du Bronx, c'est, on n'a pas le droit de dire ça sur une radio étudiante peut-être, si ça va.
Tout est autorisé.
Vous mettrez des bips. Et j'ai dit bip, oui. Me regarde pas comme ça, Stéphane. et du coup voilà. Pour moi, les Tambours du Bronx, c'est une espèce d'institution, c'est un espèce de truc, ça fait rêver, c'est voilà, envie de... Ouais, et puis moi j'ai un peu cette fâcheuse habitude à chaque fois qu'on me propose quelque chose que j'ai jamais fait, je dis oui puis je réfléchis après si c'est vrai. Donc mais là je regrette pas une seconde d'avoir dit oui, c'est une belle expérience quoi, c'est presque voilà, inespéré et puis quand t'as un peu de bouteille, que ça fait longtemps que tu fais de la zik, même si je fais tout, moi je suis un peu un phobique des habitudes pour pas m'enfermer dans une espèce de routine et je suis dans un groupe avec Lofo où on essaye de se resituer à chaque album, à faire des choses un petit peu différentes, si tu veux, à pas vouloir que ça ronronne. Mmh. Bon, bah là, tu vois, te dire, tu vas devoir écrire des textes sur des bidons en fer, moi, je trouve ça plutôt un beau challenge, quoi.
Bah ouais, carrément.
Et voilà, donc j'ai dit présent tout de suite, voilà. Et comme je pensais pas pouvoir être forcément disponible, j'ai proposé aux gars, sur toutes les dates, j'ai proposé aux gars de créer un binôme avec un collègue, et c'est là que j'ai contacté mon ami Stéphane Burier et je l'ai appelé et j'ai fait en gros ça fait allô Bubu, dis-moi, je fais un truc avec les tambours mais je vais pas être là, t'es d'accord pour qu'on le fasse ensemble? Et
et voilà, et t'as dit oui.
Bah, j'ai dit oui tout de suite, un peu comme toi, hein. De toute façon, c'était pas, j'ai pas eu beaucoup de temps pour réfléchir, et puis j'en ai pas pris non plus, parce qu'au bout du compte, encore une fois, bah, les tambours, c'est une institution, c'est quelque chose qui est, enfin, ça a du sens de jouer avec les tambours, ouais. C'est une expérience, enfin, t'as ça une fois dans ta vie, quoi, toi, encore une fois, comme je rejoins Renaud sur le fait aussi d'essayer de nouvelles choses et jouer avec ces tordus derrière nous qui balancent sur des bidons et avec quelque chose qu'on n'a jamais vécu. C'est vrai que musicalement on a fait pas mal de choses, ça fait plus de 30 ans qu'on fait ça, donc on a quand même bourlingué et on a roulé notre bosse un peu partout, mais ça, les tambours, c'est une nouvelle expérience, c'est un beau challenge, c'est une écriture différente. Et puis voilà quoi, c'est se remettre encore une fois en question. Tu te dis que bah même quand ça fait voilà plus de 30 ans que tu fais ça, t'as encore de nouvelles choses à apprendre, des nouvelles choses à faire, et c'est super motivant. Ça s'est fait aussi très rapidement, donc l'urgence de la situation aussi fait que t'es obligé d'être pertinent, et puis tu te poses pas les mêmes questions que quand tu travailles pour ton groupe, où voilà les gens t'attendent aussi sur un terrain qu'ils connaissent, parce que voilà, ouais. c'est pas le premier album que tu fais, et là c'est tout nouveau pour nous aussi, c'est nouveau pour tout le monde, donc c'est un très beau challenge.
Ouais, c'est excitant de se retrouver à nouveau dans une position de débutant, si tu veux, quand t'as déjà de l'expérience. Je trouve ça assez passionnant.
Et au niveau de la conception, du spectacle, justement, les morceaux, en fait, c'est quoi? C'est les Bronx, vous leur avez envoyé? Vous avez écrit dessus? Vous avez composé ensemble? Comment ça s'est passé?
On a travaillé à distance. Déjà, nous, on a retravaillé pas mal de morceaux des tambours. On a travaillé quelques reprises aussi. Donc, il a fallu, sur les reprises, écrire des parties de bidon qui n'existaient pas, évidemment. Ensuite on a écrit des parties de guitare, alors tout ça s'est fait très très vite. Ensuite il a fallu les apprendre. On a envoyé, à chaque fois qu'on écrivait des morceaux, on les envoyait à Francky pour que lui écrive de son côté des parties de batterie. Quelquefois on peinait un petit peu plus, c'est lui qui nous envoyait les parties de batterie pour nous aider. Et puis à partir du moment où on a eu Renaud et Stéphane, on a commencé à leur envoyer les morceaux qui étaient les plus prêts. Et ça s'est fait très très vite. Et là,
ouais, on a vraiment commencé à bosser ensemble hier, quoi. Sinon, ouais. On s'est rencontrés il y a un mois et demi, deux mois, un truc comme ça, quand ils sont montés sur un événement à Paris. Et sinon,
voilà. Pour faire des photos, en fait, on s'est
faire des photos.
Au salon du cheval.
Ouais, le truc, tu sais, qui commence à l'envers. Tu fais un groupe, tu commences par faire des photos, puis après on fera de la musique. Non, mais tout s'est fait par distance. Voilà, et je pense avec une confiance respective qui est appréciable, quoi. Enfin, je pense qu'il y a des gens comme ça, on le sait bien, quoi. On a tous bourlingué pas mal, et puis il y a des gens, tu sais que tu fais partie de la même famille musicale, il n'y a pas à se renifler le bip pendant, pendant des plombes, quoi.
C'est quoi le bip?
Et alors, où nos auditeurs nous écoutent, en fait, vous serez donc au Silex en train de préparer le show de ce soir. Comment ça se passe, en fait? C'est une avant-première, si j'ai bien compris?
Le Silex, en fait, c'est une sorte d'avant-première. Oui, c'est un filage. On appelle ça un filage, c'est-à-dire que c'est pas encore vraiment le concert définitif, hein, puisque c'est encore en préparation, mais ça devrait y ressembler fortement.
Il y aura pas tous les costumes, il y aura pas les danseuses, il y aura pas les feux d'artifice.
Alors c'est réservé aux abonnés Silex, en fait,
c'est réservé aux abonnés Silex, mais on a vu quand même beaucoup de monde qui était un petit peu déçu de ne pas avoir accès au Silex. Donc on a fait gagner quelques invités. Pour quand même que les gens soient satisfaits, il y avait énormément de demandes. Donc on a essayé quand même. On ne pouvait pas remplir le Silex. Hein. C'est un filage privé. Mais bon, c'était quand même un petit peu dommage de laisser nos fans dehors.
Qui sont gentils. Et donc après la suite, vous jouez le 20 mars à la Machine du Moulin Rouge à Paris. Et après vous enchaînez sur pas mal de dates, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est la première le 20 mars. C'est la première officielle.
D'accord. Et on peut retrouver les dates sur Internet
Alors, on pourra trouver les dates sur Internet. Pour l'instant, comme le projet est tout nouveau, on a énormément d'options. On a un pré-planning qui est en train de se charger beaucoup.
Ouais.
Mais on ne peut pas encore dévoiler beaucoup de dates.
D'accord.
Parce que tout est en train de se préparer et tout va continuer à se développer tout au long de l'année.
Alors, est-ce que vous avez un projet, par exemple, d'album où il y aura des clips
Oui, il va y avoir des clips. On ne sait pas encore lequel. Et...
Surprise.
Et oui, il y aura un album. On ne sait pas encore quand.
Donc, affaire à suivre.
On va probablement faire un mini aussi très rapidement.
D'accord. Bah justement, je vous propose qu'on écoute un petit extrait de votre travail ensemble et on se retrouve juste après.
Eh bien, écoute, oui, on va écouter même deux petits extraits qu'on va enchaîner. On va écouter un petit extrait de Jour de colère et un extrait de Mirage éternel, si ça vous va.
Parfait.
«
c'est ma guerre. Rien n'est plus noble que la guerre. Malgré les coups bas, les coupables, qui sait de quoi on est capable. Dans l'engrenage et la gangrène, on combat au bout de nos peines.
Sur Bac FM, l'émission c'est toujours Check Melot dans sa version aujourd'hui XXL, une émission consacrée au projet Weapons of Mass Percussion. Et voilà, je suis toujours en compagnie d'Apolline, qui est ma co-animatrice du jour. Et puis toujours notre plateau de folie, d'hommes des tambours du Bronx, Renaud de Lofo, Francky de Blazing War Machine, et puis Stéphane Burier de Loadblast et de Synsenum. Oui. Alors ça, c'est qu'une toute petite partie de ton CV, hein, Stéphane, puisque tu as plus d'une corde à ta guitare, j'ai envie de dire. Voilà, t'es le fondateur, chanteur, guitariste de Loadblast, qui est un groupe pionnier de la scène death metal française. Un fleuron de cette même scène depuis 1985. T'es aussi un producteur incontournable de la scène rock metal depuis les années 90, la fin des années 90, c'est ça. Membre du collectif Le Bal des Enragés avec Renaud. Et puis... on t'a vu aussi en tant qu'animateur de télé sur l'émission Une Dose de Métal, c'était sur l'énorme TV, c'est ça?
Ouais, ça durait 4 saisons.
Ouais, et que tous les émissions cultes pour tous les amateurs de métal.
Je te remercie.
Et puis plus récemment, tu es devenu le guitariste du groupe Synsenum, créé avec Frédéric Leclerc, donc connu pour être le bassiste de Dragon Force. Il a joué aussi un petit peu avec Loadblast.
Il joue toujours avec...
Il joue toujours, d'accord, j'avais pas l'info. Et puis un groupe que vous avez créé aussi en compagnie de Joey Jordison, l'ex-batteur de Slipknot.
C'est cela.
Alors ça fait un sacré CV quand même, du coup ça fait une actu qui est quand même bien chargée.
Bah, il ne manquait plus que les tambours du Bronx
pour avoir une actu bien chargée. T'as plus une minute à toi là.
Je t'avouerai que je veux pas me plaindre non plus, tu sais que c'est quand même un milieu où il faut quand même être très actif, les infos vont très vite, donc il faut toujours être là, et en l'occurrence avec des beaux projets, et les beaux projets ils sont devant moi, quoi. Donc c'est les tambours du Bronx dans l'immédiat, il y a le Synsenum, on sort de studio là, on y retourne pour terminer le nouvel album qui sortira à la rentrée, il y a une tournée mondiale qui va suivre, Loadblast nouvel album en préparation, il y a déjà plus de la moitié, on va dire 10-12 titres qui sont prêts. On enregistre un EP au mois de mai. Et puis au milieu de tout ça, il y a des concerts du Bronx qui vont nous amener jusqu'à la fin de l'année, a priori. On va se répartir le travail avec Renaud. Et puis voilà.
Alors, on va revenir un petit peu sur Loadblast, puisqu'il y a eu un petit peu, il y a eu une belle actu là ces derniers temps. Vous avez sorti il y a peu un CD DVD qui s'appelle Three Decades Live Ceremony. Alors sur lequel on retrouve le concert que vous avez donné à Lille en avril 2015. C'était pour les 30 ans du groupe.
C'est ça.
Et sur lequel on retrouve des titres qui sont issus de quasiment toute la discographie. Pas mal de titres anciens. Ça a dû être compliqué de faire le choix de la setlist.
C'était surtout compliqué de les rejouer parce que le fait est que bon, le line-up a quand même changé depuis le début du groupe en 85-86, mais bon, le premier album est sorti en 89, le split LP est lui sorti en 87, donc à l'époque on jouait pas de la même façon, on jouait pas au clic, on jouait pas très bien non plus, donc c'est, ça a été très instructif de se replonger dans les premiers morceaux du groupe que moi j'avais composé à l'époque, mais sans, enfin c'était pas la même logique que maintenant, il y avait pas d'ordinateur déjà, fallait savoir jouer tes morceaux par cœur et en live, hein, parce que tous ces albums là ont été enregistrés en live, donc je t'avouerai qu'il y a même certains morceaux qu'on a répétés mais qu'on n'a pas décidé de donner à la fin parce que certains du groupe comprenaient pas la logique de ce qui avait été fait à l'époque et je peux les comprendre, c'était un petit peu il y avait ce côté un peu punk death metal, tu vois, un peu foufou, quand t'as 17 ans, tu te poses pas les mêmes questions que quand t'as 15 albums derrière toi, quoi.
Et puis c'était aussi un peu les débuts du death metal.
C'était les débuts du death metal,
du moins en France.
En France, c'était vraiment le premier album de thrash qui est sorti, l'album de Blast. Et puis voilà, quoi, on a eu l'occasion de bosser avec plein de gens super et tout le long de notre carrière. Et puis les 30 ans, ça devait se faire à Lille. On avait la possibilité de le faire dans d'autres salles, mais ça se fait à Lille parce que voilà, c'est là où on est né, c'est là où on a grandi, c'est là qu'on a eu nos premiers fans au lycée Jean Perrin quand j'étais encore. c'est un groupe de lycéens, hein, c'est un groupe de potes qui se sont rencontrés au lycée.
Comme beaucoup de groupes finalement.
Et puis voilà, ça a fait, on en a fait un métier. Et puis je suis toujours là pour t'en parler, donc je suis plutôt satisfait de ce qui m'est arrivé depuis le début de tout ça, quoi.
Et puis donc ce live, il est disponible en plusieurs formats, ouais. Et parmi ces formats, il y a un très beau coffret dans lequel justement vous offrez à vos fans quelques inédits comme un premier concert, c'est ça ?
Ouais, en fait, on a mis un peu de temps à sortir parce que c'est moi qui me suis occupé un peu de tout, de récupérer toutes ces archives. Et au plus je récupérais les archives, au plus je retrouvais. Et puis des potes qui m'ont retrouvé, j'ai retrouvé donc le premier concert du groupe, le tout premier concert du groupe. Alors la qualité audio est pas géniale, mais c'est juste un témoignage, quoi. Et puis on a les photos de l'époque. On est en cuir clou, maquillé.
Les années 80, en fait.
C'était le début de 80, tu vois, genre Slayer style, tu vois, avec des pics comme ça. C'est juste génial. Donc, on a ce premier concert. Et ce qui est cool, c'est qu'on a offert aussi aux gens des moments un peu privilégiés de nos vies de tous les jours. Quand on a fait un crowdfunding quand on a fait de la tournée européenne, parce qu'on avait besoin de récupérer 20 000 euros pour faire cette tournée, et le label ne pouvait pas nous les donner. Donc, on a fait ce crowdfunding qui a très bien marché. Et dans les lots qu'on proposait, il y avait des concerts privés et que les gens filmaient avec leur téléphone et autres. Et on a fait un montage de tout ça. On l'a mis dans le DVD. Il y a plein de moments, voilà, qui sont des moments qu'on voit pas spécialement dans la vie d'un groupe et qui est un groupe, quoi. En gros, c'est pas que des 4 ou 5 gugus, en l'occurrence la 16, qui montent sur scène pour faire du bruit, mais c'est aussi ce qu'il y a à côté. Et tout n'est pas beau à montrer, mais on a montré ce qui était montrable.
C'est un super cadeau pour les fans, quoi.
Ouais, et puis moi, je me suis éclaté à le faire. C'était un gros, gros boulot, hein. Mais je suis très content de ce qu'on fait. Ça sort donc de très belles box avec plein de goodies, machin. Ça sort en vinyle, ça sort en digipack, donc.
Il y a un artwork qui est super aussi.
Ouais. Liran Cantor, qui est un mec qui a bossé avec Soulfly, qui a bossé avec Testament. Enfin voilà, c'est un Allemand. Et voilà, je pense qu'il fera la prochaine pochette aussi parce qu'il nous a vraiment bluffé avec celle-là.
Alors on a évoqué tout à l'heure le groupe Sincenum que tu partages, alors entre autres, hein, avec Frédéric Leclerc et Joey Jordison, ouais. Mais pas que, il y a aussi Attila.
Il y a Attila César de Mayhem, il y a Sean Zatorski, ancien membre de Chimera et de Death, et Emot, le guitariste de Seth. Voilà.
Alors c'est Frédéric qui en est l'instigateur de ce groupe.
Absolument. Bah, Fred et moi, on est potes depuis pas mal d'années et puis voilà, quoi, on était toujours en train d'écouter les mêmes conneries en fin de soirée, en train de terminer mal, forcément. Et puis voilà, on a les mêmes goûts, on a les mêmes affinités musicales, quoi. Donc on s'est dit, à un moment, il faudrait qu'on fasse notre groupe de death metal, quoi. Et Fred avait des morceaux qui traînaient depuis un petit bout de temps. On les a enregistrés, donc ça a fait le premier album. Et puis là, voilà, on est plus sur une suite logique d'un groupe qui continue et qui est pas juste un super groupe qui a que de vocation que d'être beau sur le papier et pas tourner. Donc il va y avoir pas mal de choses qui arrivent. Le EP qui vient de sortir et un nouvel album qui sortira à la rentrée.
D'accord. Alors pour l'instant, vous n'avez pas encore tourné. Tu nous as dit que ça allait venir.
Ça va venir.
Ça doit être compliqué quand même, parce que vous êtes de pays assez différents. Il y a des Américains, il y a un Hongrois. Ouais.
Ben c'est très compliqué parce que voilà, nos emplois du temps sont hyper chargés, hein, comme tu peux le remarquer. Donc voilà, ben là on a réussi à se rejoindre pendant plus de deux semaines. Il y a peu de temps pour justement enregistrer, tourner les clips, faire les sessions photos, et puis après on va se retrouver pour répéter. Mais ça va être plus simple cette année.
D'accord.
Il y a un des membres du groupe qui va être plus disponible, donc c'est cool.
Donc bientôt Sincénum sur scène.
Ouais, ça c'est prévu pour.
Et bientôt aussi un nouvel album avec Sincénum.
Un nouvel album avec Sincénum et un nouvel album de Dub la semaine prochaine. Enfin bref.
Beaucoup de choses qui se profilent.
J'ai peine sur la planche.
Bah du coup on peut reprendre rendez-vous alors pour une interview quand les albums vont être sortis.
Absolument, enfin, je viendrai avec tout, comme ça on fera
ça
une totale.
Et alors ce soir tu vas être au Silex donc avec les tambours, avec Francky, avec Renaud. C'est une salle que tu quittes plus en ce moment, puisque je crois que tu y étais mercredi dernier, non? Tu n'y as pas donné une conférence?
Alors j'ai donné une conférence avec Fred.
Avec Fred
C'était, je ne sais plus quand.
Sur le thème métal mode d'emploi.
C'est ça, ouais, on fait une conférence, on raconte un peu l'histoire du métal, nos expériences de musiciens, et en studio et en live. Et puis voilà, ça dure deux heures, après on fait un peu de guitare et on est content.
Alors ça c'est génial.
Et puis, les gens sont contents, non, mais ça a bien marché. Franchement c'est une conférence qui a vraiment fonctionné super bien. Les gens... on s'adresse et à des musiciens et aussi à des fans, quoi. Donc forcément ça crée des moments d'échange assez particuliers.
Est-ce qu'il y a aussi des entre guillemets non métalleux qui viennent assister?
Absolument. Ah oui, totalement.
Parce que le métal,
il y a beaucoup plus de gens qui sont
ainsi. J'imagine.
Mais il y a quand même ça amène quand même des
le métal maintenant c'est quand même une sacrée histoire, c'est aussi une philosophie presque.
C'est une façon de vivre, hein. C'est demandé à ma copine.
Stéphane, merci de nous avoir parlé de toute cette actu qui est quand même assez impressionnante. On va écouter un extrait du live de Loadblast.
Avec plaisir.
Eh ben, écoute, j'ai choisi Black Death parce que c'est un morceau qui est extrait de votre démo sorti en 85.
Sache que c'est le tout premier morceau que j'ai composé pour Loadblast. Et sur ce live, justement, il y a Alex d'Agressor qui joue la guitare.
D'accord. Ouais. Alors moi, ce morceau, je le connaissais pas avant d'écouter le live. Ouais. Donc voilà, j'avais
envie c'est assez simpliste, hein, quand même. Hein.
Ouais, mais ça envoie, c'est bien.
Mais ça envoie du bois, voilà.
Tout de suite, Loadblast sur Bac FM. Le titre, donc, Black Death.
Black Death. Yeah.
y'a quelqu'un dans ce bordel.
C'était Loadblast sur Back FM 106.1 dans l'émission Check Me Load, Loadblast avec un extrait du live Three Decades Live Ceremony. Et c'était le morceau Black Death qui à l'origine se trouve sur une démo qui s'appelle Beyond the Dark Mist, sortie en 85. Il me semble que c'était la première démo de Loadblast. Notre plateau de folie est toujours là. On a toujours Stéphane, Renaud et Francky. Et bah Francky, on va s'intéresser maintenant un petit peu à toi avec aussi pas mal de projets.
Avec plaisir.
Un gros projet notamment. Alors on t'a connu à l'époque en tant que batteur pilier du groupe Dagoba. Et puis depuis 2005, t'es également le batteur du groupe Blazing War Machine que tu as fondé avec Phil, un ami d'enfance.
C'est ça.
Qui est au clavier.
Exactement.
Et je crois qu'il y a aussi Isaacar, hein, qui.
Isaacar aussi vous, qui a intégré le groupe un an après la création du groupe.
D'accord. Alors justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Blazing War Machine? Bah, qu'est-ce qui vous a donné envie de fonder ce groupe qui, moi, me rappelle un petit peu les grandes heures de formation comme Cradle of Filth, Dimmu Borgir.
Exactement. Ben, t'as tout compris. En fait, ben, Phil, le claviériste du groupe, c'est mon plus vieil ami. J'étais à la maternelle avec lui.
D'accord.
Donc,
encore une histoire de pote, quoi.
Exactement. Vraiment un ami avec un grand A qui compte beaucoup pour moi. Et on a commencé nos premiers groupes ensemble. Notre amour pour le hard rock et le metal, on a grandi avec ça ensemble. Et on a toujours eu envie de faire un projet tous les deux. Donc, lui, il a eu pas mal de groupes aussi sur Marseille. Un groupe s'appelait NLC Dreams, qui était métal extrême symphonique avec pas mal de claviers. Et ce courant musical, on aime un peu tous les courants, hein, vraiment du heavy, thrash, death, punk, glam. On est vraiment grand public. Et on avait quand même un bon penchant pour ce côté Black Sympho, à la Cradle, à la Dimmu, ce genre de groupe. Et moi, à l'époque, j'avais un petit creux dans le planning de Dagoba. Et on s'était dit, ben, on va attaquer à ce moment-là. J'avais quelques idées de rythmique assez martiale, assez saccadée à la batterie. Et donc, je lui ai envoyé mes patterns de batterie, des trucs un peu mitraillettes, quoi. Et lui, il rajoutait un peu des trucs au synthé, un peu musique de film super sombre. Et on commençait à composer comme ça, quoi. Donc, déjà, on se régalait. Et donc je propose très vite à Isaacar, ancien guitariste de Dagoba aussi, d'intégrer le projet, qu'il accepte de suite. On était tous fans de Dimmu, donc il accepte rapidement. Et disons qu'après plusieurs changements de line-up, on est arrivé au line-up actuel avec Irina à la voix, Adam à la basse, Fab à la deuxième guitare, et Isaacar, Phil et moi.
Tu nous disais tout à l'heure qu'au début, voilà, ça faisait un peu un côté musique de film, mais c'est resté ça, hein, je trouve. Il y a un côté
complètement. Un peu ce côté orchestral, symphonique, c'est, pour moi, c'est 70% de la musique de Blazing. Faut que ce soit omniprésent, faut que ce soit vraiment prenant, et oui, toutes les orchestrations et les claviers sont hyper présents dans ce groupe-là, quoi.
Alors, sur votre premier album, qui est paru en 2011, c'est Typhus qui était au micro.
Oui.
Depuis, tu viens de le souligner, c'est Irina qui a pris sa place. C'est une chanteuse, donc. C'est encore assez peu courant au sein de la scène métal extrême, hein, d'avoir une frontwoman.
C'est vrai. En fait, c'était pas calculé du tout. Après le départ de Typhus, on a commencé à passer un petit peu des annonces. Et un pote à moi me dit, il y a une chanteuse russe qui vient de débarquer ici. Et elle cherche à intégrer un groupe de métal. Elle a une putain de voix. Elle hurle comme un mec. Elle est vraiment très motivée pour faire un truc sérieux. Elle dit, écoute, on va essayer. Et du coup, je lui ai envoyé 3-4 titres. Et elle vient à la première répète, elle nous a défoncé, quoi. Et autant par son charisme que sa voix, que sa sympathie, on a dit bienvenue, quoi. Et ça nous a apporté vraiment un second souffle, une énergie, un charisme et du charme aussi.
Et ça vous a ouvert peut-être aussi de nouvelles palettes.
C'est vrai que tu mets une jolie jeune fille qui gueule. Devant de la scène, c'est vrai que des fois les rangs du fond se rapprochent un peu, quoi.
Alors, on va l'entendre tout à l'heure. C'est vrai que quand tu dis qu'elle gueule, c'est pas du tout une chanteuse dans la lignée de Tarja Turunen, par exemple. C'est plutôt Angela Gossow.
Exactement, même en plus agressif.
Plus agressif,
vraiment,
ouais.
Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle peut passer de death vraiment très très grave à black ultra aigu. Et vraiment sans retouche studio ni rien, c'est vraiment en live, c'est pareil que sur CD, même en répète, des fois elle me file des frissons rien que par ses alternances. Et
c'est un peu le pendant féminin de Danny Fields.
Exactement, ça revient souvent, mais je pense que c'est vrai. Et moi qui suis fan vraiment de ces cris de chat égorgé ultra suraigu, vraiment je suis super content.
Alors, quand t'as formé Blazing War Machine, t'avais une activité assez intense avec Dagoba. Du coup, peu de temps à consacrer à cette formation à un moment donné.
Malheureusement.
Alors là, depuis que t'as quitté Dagoba en 2016, j'ai l'impression que Blazing War Machine a pu prendre un nouvel essor. Et alors, déjà, t'es plus disponible, mais aussi, j'ai l'impression qu'il y a une partie des fans de Dagoba qui ont voulu te suivre aussi sur ce projet.
Il y a eu un petit peu de ça, et du coup, je les remercie beaucoup pour leur fidélité et leur soutien. Ça nous a beaucoup touché le groupe entier, hein. Et c'est vrai que forcément il y a eu un regard après cette séparation avec Dagoba sur Blazing War Machine de nouveau, et c'est vrai que le groupe a suscité un peu plus d'intérêt que précédemment. Le groupe était les années précédentes plus considéré comme un side project,
ouais.
Qui restait toujours dans l'ombre. Et du coup là ça a été un peu plus bénéfique pour Blazing, et j'en suis très content.
Alors on vous attendait un peu avec un deuxième album, et puis finalement vous avez opté pour la parution d'une série de 5 singles. C'était entre 2015-2016, hein, si
oui.
Je dis pas de bêtises. C'est plutôt original.
Oui.
Et alors pourquoi ce choix?
Déjà quand on a choisi cette stratégie, moi j'étais encore dans Dagoba. Et du coup, les plannings étaient quand même toujours compliqués. Et on essayait d'être productif avec Blazing, mais on sentait bien que sortir un 10-12 titres, on allait vraiment galérer. Et du coup, travailler une chanson sur 2-3 mois et l'illustrer chaque fois avec une vidéo, ça c'était possible. Donc ça nous a permis d'avoir de l'actualité régulièrement sur Internet. Et ça a beaucoup fonctionné, dans le sens où à chaque clip et à chaque single qu'on sortait, on avait beaucoup de propositions de concerts et une actualité toujours omniprésente. Donc ça a été super bénéfique jusqu'à là. Encore jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ressort un titre il y a 4 ou 5 mois, on a encore des propositions de concerts, de festivals, comme si on sortait un album presque.
D'accord.
Et le fait sortir chaque single avec une vidéo, ça me plaît beaucoup, parce que ça pousse au côté créatif, autant musicalement que visuellement, et ça me plaît bien.
Alors, est-ce qu'il y a un deuxième album, du coup, en préparation?
Là, on est en train on doit avoir 7 à 8 titres maquettés. On ne sait pas trop ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va sortir sous la forme de, en garder peut-être que 6 et faire un gros EP, ou alors attendre un petit peu d'en avoir une dizaine pour sortir un album. On sait pas trop.
D'accord. Bah, en tout cas, on peut suivre tout ça sur les réseaux sociaux.
Oui, complètement. Et on a quand même encore des concerts sur toute l'année, quoi.
Ok, et eh ben merci Francky.
Merci.
On va en écouter un extrait justement de,
un
des singles de Blazing Wear Machine. Le morceau c'est Polarity et j'invite aussi nos auditeurs, alors quand l'émission sera terminée, à aller visionner le clip sur YouTube.
Merci beaucoup.
C'est tout de suite, c'est sur Bac FM. Vous êtes toujours sur Bac FM, l'émission c'est toujours Check Me Load dans son édition spéciale consacrée au projet Weapons of Mass Percussion. Je vais y arriver à le dire dans l'ordre, ça va venir. Et donc on vient d'écouter un extrait du groupe Blazing Wear Machine avec le morceau Polarity. Francky est d'ailleurs toujours dans le studio.
Merci beaucoup.
Bon, en tout cas c'est génial, hein. C'est un super groupe. Moi je Je suis assez fan de l'époque Cradle, époque Cruelty and the Beast, etc. Donc forcément, ça me parle.
Super.
Et puis maintenant, eh bien, on va discuter un petit peu avec Renaud. On va parler de ton actu, parce que toi aussi, c'est bien chargé, hein, décidément.
Ouais,
vous
c'est
avez
clair.
Tous, vous n'êtes pas venus pour rien aujourd'hui hein, sur Bike FM.
Non.
Alors, du coup, je l'ai dit tout à l'heure, quand on a commencé l'émission, tu es la voix de l'OFO depuis bientôt 30 ans, ça va faire 30 ans l'année prochaine.
Oui, bah ça va.
Donc, un peu comme l'autre Blast,
on a commencé à peine plus tard. Le tout début de l'OFO, c'est 1989, et puis je crois que le premier 5 titres, je sais plus, c'est 93 ou 94, mais voilà, à peu près, début 90, quoi.
Donc vous êtes aussi un groupe pionnier, mais alors vous, plutôt de la scène rock metal fusion.
Ouais.
Made in France.
Ils disaient ça fusion, les gens, à l'époque. Moi, ça m'énervait parce qu'il y avait déjà le jazz fusion qui existait, qui était un truc spécialement pénible, quoi.
Et j'aimais super pas. Super différent.
Ouais, ouais, voilà. Donc, et puis, un côté un peu froid aussi dans le jazz fusion, tu vois. Et puis là, non, nous
c'était plutôt bouillant, là.
Bah ouais, nous, on était juste des punks qui venaient nous prendre NWA et puis Public Enemy dans les dents. Puis on trouvait ça cool. On trouvait que c'était pas normal qu'il y ait une scission aussi franche entre le milieu des guitares et celui des platines, quoi. Même si on n'a jamais eu trop de platines dans l'OFO. C'était un peu ce côté, cette musique urbaine qui donne envie de bouger, de secouer la tête, quoi. Nous, ça nous. Puis qu'il y avait des choses à raconter, c'est ce qui nous a motivé au tout début.
Il y avait aussi One Eye Jack à l'époque.
Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Des gros groupes de branleurs, là. mais c'était des amis, vraiment, mais on en parlait hier, j'en parlais hier avec Dom, et parce que c'est comme ça que c'est monté à un moment, on a un collectif, puis ça s'est monté de l'amitié de ces deux groupes-là, et c'était un groupe vraiment exceptionnel, One Eye Jack, au niveau de ses influences, mais parce que eux, ils avaient le côté grunge, un peu Pearl Jam et Jane's Addiction, des trucs comme ça, et le côté très hip-hop, vachement plus que nous, mélangé, et personne n'a fait ça, même au point de vue international. Le problème avec One Eye Jack, c'est qu'il faisait un bon concert tous les 5 concerts, quoi. Il fallait être là. Mais par contre, quand c'était un bon concert, tu tripais vraiment en tabarnak, comme on dit.
Et puis il y avait des. Bah, un peu comme l'OFO, il y avait aussi des textes, voilà.
Ouais, aussi.
Lignée de groupe avec des textes engagés.
Fâchés,
voilà. C'était en colère.
Vous
avez d'ailleurs impulsé toute une scène, hein, puisque les années 2000 ont été riches. Alors, il y a eu un terme un peu galvaudé que j'aimais pas beaucoup. On appelait ça la Frenchcore. On y mettait un peu tout et n'importe quoi.
Pareil, c'est. Tu sais, les étiquettes, c'est bien pour vendre des trucs dans les supermarchés, hein, voilà. C'est pas trop un truc de toute façon toutes les étiquettes, mais même le mot rock'n'roll, le mot punk, le mot stoner, tous ces trucs là c'est des inventions de journalistes ou de directeurs artistiques, hein. Jamais des mecs de groupe disent tiens nous on fait ça comme musique, puis ils inventent un nom, ou alors c'est qu'ils sont prétentieux, quoi.
Ou alors c'est qu'ils ont ou alors c'est 3/4 degré, quoi.
Oui, voilà, c'est ça,
comme par exemple Autruchecor.
Oui, d'accord, ouais, non mais bon, ouais,
voilà,
ok.
Alors donc on va revenir à l'OFO, puisque c'est le sujet qui nous intéresse là tout de suite. Après 8 albums électriques, vous avez décidé de débrancher les guitares, et au mois d'avril vous allez sortir un album acoustique.
C'est ça, ouais.
Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de passer en mode unplug?
Je sais plus trop, je saurais pas te dire. Je crois que c'est Phil, le bassiste, hein, qui a dit. Et en fait, ouais, sur le précédent album, en fait, il y a deux titres. Philus, il s'est mis à composer chez lui à la guitare acoustique, quoi. Donc il y avait des morceaux qu'il composait acoustique, voire un peu cool, et puis que finalement, après, il prenait la basse, et puis on disait ouais, non, mais ça, c'est, il est la grille, elle est super bien, mais tu le vois pas plutôt en mode sur un beat punk, etc. Tu vois, donc on lui a massacré tous ces morceaux acoustiques pour en faire, parce qu'il voulait qu'on fasse un album électrique sur le précédent avec un EP acoustique. On a dit non, mais ça n'a pas d'allure, quoi. Et donc du coup même le label était pas très chaud pour sortir un truc comme ça, donc il nous a ressorti ça, la carte acoustique, quoi. Et puis on s'est dit bah allez, pourquoi pas. Et puis puis avec l'OFO, on a toujours eu un malin plaisir sans se mettre à changer radicalement de style, à essayer de brouiller les pistes, tu vois, au moment où on nous trouvait groupe métal, tu vois, avec une image un peu sombre et un peu genre les mecs pas prise de tête, mais un peu, tu sais, les intellos du truc. On avait fait un album qui s'appelait Les choses qui nous dérangent, qui était notre album le plus punk quelque part. Et puis quand on veut nous, à chaque fois qu'on a voulu nous mettre dans une case, on a essayé de tu vois,
de là où on vous attendait
de
pas.
Pousser les murs un petit peu dans une autre direction. Et donc là, on pouvait pas faire plus loin de ce qu'on fait d'habitude. Maintenant, ça reste nous, ça reste les mêmes mecs, quoi, juste qui racontent une autre histoire. C'est un peu comme si on avait l'habitude de de faire des soirées raclette tous les mois, tu vois. Et puis là, on fait soirée fondue bourguignonne, tu vois.
Couscous.
Non, mais tu vois, c'est ça. C'est un peu, tu vas chez mamie tous les dimanches, t'as le gigot haricot, et un coup, t'as fait une pizza. Alors t'es étonné, mais tu te dis, bah peut-être elle est pas dégueu la pizza, mamie.
Bah, en tout cas, c'est une belle image, hein, pour résumer. Ouais, un peu,
mais là, la musique, c'est un peu comme de la bouffe, quoi.
Comment ça va ouvrir l'appétit là.
C'est de la cuisine. Alors, donc sur cet album, vous distillez quelques infos de temps en temps, hein, sur, ouais, sur les réseaux sociaux. Ouais. Vous en dites pas trop quand même.
Ben, non, on n'est pas du tout. Moi, je crois qu'il y a personne. Moi, j'ai pas de Facebook personnel. Le bassiste en a pas non plus. Daniel, il en a un, mais sous un faux nom ou voilà. Et puis, donc, on n'est pas du tout de connecté à tout ça, quoi.
Alors, autant très, dire très que tout très, ça, très ça ne fait que attiser ma curiosité.
Ouais, mais c'est bien, voilà. Ouais, c'est bien comme ça.
Là, vous avez trouvé le truc. Je pense que, enfin, les gens qui vous suivent, on est tous super curieux de savoir ce qui va nous attendre. On peut, alors sans tout dévoiler, hein, est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus? Est-ce que par exemple il y aura exclusivement des compos ou...
Oui, c'est que des compos en fait. Il y a des gens qui pensent qu'on va faire un unplugged, mais c'est pas du tout ça.
Oui.
Ça va être le cas sur la tournée parce qu'on va faire une tournée acoustique, donc dans laquelle parce que notre album il doit faire genre dans les trois quarts d'heure à peu près, tu vois. Donc après il y a des titres qu'on a toujours joué en électrique qu'on va adapter en acoustique pour la tournée précisément. D'ailleurs, en ce moment, on est dans les échanges de mails, à savoir quel titre on bosse, quel titre on va essayer de passer à la moulinette acoustique. Mais sinon, oui, c'est 11 titres qu'on a composés vraiment comme ça, quoi, dans mon salon même. Hein. C'est ça l'avantage de faire de la musique acoustique, c'est que t'es pas obligé d'être dans un local et de t'avoiner les oreilles à longueur de journée. C'est qu'on a fait ça vraiment paisible, quoi.
Bah justement, ouais, passer de la puissance de l'électrique à la douceur de l'acoustique.
Ouais, ouais.
Niveau compo enregistrement, j'imagine qu'on appréhende les choses un peu différemment.
Ouais, carrément. Mais écoute, on n'a jamais enregistré un album aussi vite, et surtout, on n'a jamais enregistré un album où on avait autant pratiqué les morceaux avant. Parce que je te cacherai pas qu'il y a des albums de Lofo. Je suis arrivé en studio, j'ai écrit les textes, la moitié des textes au dernier moment, et il y a eu des moments comme ça, quoi. Un petit peu à l'arrache, voir mes copains découvraient ma ligne de voix et de quoi parler la chanson au moment où j'enregistrais. Je leur ai fait ça quand même, ce qui est pas très très cool, hein. Mais avec le temps, j'ai pris un peu confiance, donc je suis même à leur montrer mes débuts de texte avant qu'ils soient finis, tu vois. Donc je progresse, j'avance doucement, mais sûrement. Et du coup, on avait vraiment beaucoup pratiqué. On a fait, je sais pas, au moins un mois et demi de répète où on faisait tourner les morceaux, quoi. Ce qui fait qu'on a tout enregistré en, je sais pas, à peine une semaine. Donc c'est beaucoup des prises live. Après, il y a eu quelques petits heureux, quand il y en a un qui était pas content de l'intention sur telle partie ou des choses comme ça. Mais sinon, le basse, batterie, guitare a été enregistré live. Et moi, quand j'étais là, je faisais les voix aussi, qui étaient pas les voix définitives, mais à la prise, histoire d'être dans une intention commune, quoi.
Et au niveau des voix, du coup, ouais. est-ce qu'il faut baisser un peu le ton?
Ah, bah ouais, mais je crie pas du tout, quoi. Non, il y a pas de, c'est pas de, c'est, je dis souvent, moi, j'écris toujours sur la musique, en fait. J'ai rarement écrit de texte sans avoir de musique. Donc moi, parce qu'après, c'est trop chiant, il faut, t'as l'impression de voir rentrer au forceps, tes mots dans la zic, et c'est un calvaire, quoi. Je le déteste, ça. Donc j'aime vraiment écrire sur la musique, y compris dans l'intention, ce que m'évoque la musique. Donc quand mes copains, ils font des gros riffs énervés, moi, je fais des textes fâchés. Là, ils m'ont fait des trucs qui m'ont donné envie d'écrire un peu de la poésie, quand même, quoi.
Enfin, d'accord.
À mon humble niveau, quoi, mais voilà, c'est plus vers là que ça se situe. Donc je crie pas du tout, quoi. Il y a pas de morceau énervé du tout, quoi. C'est une autre intention, quand, voilà. Va pas y avoir d'avalanche de slam comme on a vu sur des concerts de Lofo pendant longtemps. Là, on est dans une toute autre ambiance, dans un tout autre propos. Il y a pas mal de il y a des quelques copains que j'ai fait écouter à des amis, genre Poon de Black Bomb, qui est venu bouffer à la maison il y a pas longtemps. Ou Nico des Tagada, ouais. Qui a reçu l'album, on s'est échangé des mails pour d'autres choses, et les copains trouvaient qu'il y avait une filiation assez directe avec Bachung et Gainsbourg, tu vois. Donc bon, bah,
moi
qui aime les textes en français, qui écrit toujours en français, je préfère ça qu'on me dise Dominique A et Damien 16, tu vois, par exemple.
Enfin, Bachung, vous aviez repris un morceau.
Oui, on avait repris Madame Rêve il y a longtemps, ouais. Ouais, c'est ça.
Alors,
elle connaît ses dossiers, c'est incroyable.
Laetitia, tu es impressionnante. Je tiens à te le dire.
Alors, cet album acoustique, ça va aussi être le premier album avec Kevin Follet derrière les fûts.
Ouais.
Alors lui, il s'est illustré aux côtés de Benighted, Sepultura, Decapitated, pour en citer que quelques-uns.
Nostromo, dernièrement. Ouais.
Ça a dû lui faire drôle aussi d'arriver sur de l'acoustique.
Eh ben, c'est par un ami, on a un ami en commun, Christophe, qui a été guitariste il y a longtemps dans Benighted, et qui est devenu vraiment un ami proche, et il nous a parlé de Kevin, et dit, vous savez, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que Vincent, le batteur de Lofo depuis 6-7 ans, un truc comme ça, il s'est barré faire du vélo pendant un an et demi, quoi. Non, mais vraiment, quoi.
D'où surnom, le cycliste.
Ouais, c'est ça, on l'appelle le cycliste maintenant. Donc, il est parti, là, il doit être je crois qu'il est au Vietnam ou au Cambodge avec sa chérie. Donc, ils sont partis faire un tour de vélo pendant 18 mois. Donc, il nous fallait forcément un remplaçant. Et Christophe, donc un pote, me dit, bah écoute, il y a un gars qui vraiment, qui est fan de vous depuis qu'il est ado, et puis ça lui ferait vraiment plaisir de jouer avec vous, c'est Kevin. Et moi, je l'avais vu avec Benighted, et il m'avait impressionné, parce que c'est rare de voir quand même des batteurs de métal qui font la musique aussi extrême, et chez qui tu ressens un vrai groove quand même, tu vois. Et puis on avait bien accroché humainement aussi avec ces gars-là, donc on est dit, bah Phil, le bassiste de Lofo, l'a appelé, il est venu faire un essai, puis ça a été direct, et surtout... Et il nous a dit, mais ouais, pour une fois qu'on m'appelle pour faire autre chose que des blasts, les mecs, ça me fait super plaisir. S'il avait un peu, il arrivait à un stade où il a l'impression d'avoir fait un peu le tour de toutes les musiques extrêmes comme ça, et il avait envie de jouer mais complètement autre chose. Donc on lui a dit, nous, on veut que tu Au début, on voulait presque pas de batterie, on voulait plus de la percu presque, tu vois. Et donc le fait d'être dans une recherche sonore, on le fait jouer avec des balais, tu vois, comme un jazzman.
Ouais.
Et c'est la première fois que le mec avait des balais entre les mains, il savait même pas trop ce que c'était, quoi. Et le mec, au bout de 10 minutes, il te sort des trucs, tu fais, bon bah voilà, hein, c'est pas. Ouais, c'est un très bon musicien, hein, voilà, c'est avant tout c'est...
excellent batteur et super collègue.
Et toi, ouais. Ça te tenterait, Francky, de un projet acoustique comme ça?
Ah oui bien sûr,
parce que toi aussi tu blasses plus vite que ton ombre.
Mais je suis surtout ouvert aux nouvelles expériences et à la curiosité de nouvelles collaborations, donc ouais, c'est quelque chose qui m'aurait plu aussi, et je comprends que Kevin soit très heureux de ce projet là. Ouais.
Vous avez des dates de Calais pour
avec Lofo là? Ouais, il y a une il y a 5-6 jours, cinq jours, j'ai reçu de mon tourneur le prévisionnel là des dates, donc on va déjà pas mal tourner au mois d'avril.
OK.
Et puis voilà, c'est pour ça d'ailleurs que pour ce projet des tambours, j'avais besoin d'un binôme pour pouvoir assurer toutes les dates, et que j'ai proposé à mon ami Stéphane Burier qu'on fasse ça ensemble. Donc ouais, il y a pas mal de dates. J'ai pas encore. Alors c'est rigolo parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à nous, pour qui on est des bourrins rangés dans une boîte bien hermétique. Surtout, faut pas que ça s'ouvre. Ça, on pourrait se salir les doigts. Et qui là, d'un seul coup, vont être intéressés peut-être à nous programmer. Donc et le truc le plus atypique qu'on va faire pour l'instant, parce qu'il y a des trucs sur le feu, mais bon, je préfère pas tant que c'est pas confirmé. Mais on va jouer dans un festival en Suisse, qui est un festival de jazz, et on va jouer dans un temple. Donc un truc protestant, j'imagine, en Suisse, un temple, je me dis que ça doit être un truc voilà, et en fait un lieu où il y a une acoustique particulière, et on joue vraiment unplug, c'est-à-dire il n'y a pas d'électricité, j'aurais pas de micro.
D'accord.
Voilà.
Ouais.
On va faire un concert comme ça. Je me chie un peu, mais en même temps, je trouve ça hyper excitant, quoi, dans l'idée.
Plus de grosses caisses dans les retours.
Ouais, non, tu te démerdes, tu t'éloignes de la grosse caisse. Ou tu te rapproches, si t'en veux plus.
Bon, en tout cas, on espère que vous passerez par Nevers, hein, peut-être au Café Charbon.
Il y a des chances.
Vous avez
des
déjà
chances.
Joué une paire de fois.
Ouais, c'est un peu la maison aussi.
Alors, autre projet, tu fais également partie depuis 2006 d'une formation stoner, c'est
ouais.
Budweiser.
Ouais.
Et là aussi, hein, l'actu est brûlante, puisqu'il y a un nouvel album qui arrive fin février.
C'est ça, ouais. Le CD, on l'a déjà, on attend les vinyles là, avec impatience. En plus, notre label nous a fait des vinyles multicolores, psychédéliques et tout. Donc
ça, c'est pour le 23 février.
Exactement.
Précisément,
oui.
Il me semble.
Oui, et là, il y a déjà quelques dates. On va faire une tournée, notamment avec un groupe de La Rochelle qui s'appelle Walnut Grove DC. Et voilà, où on va faire une dizaine de dates au mois de mars avec eux.
Et vous étiez venu sur une des tournées précédentes, jouer à Café Charbon.
Également. Ouais,
voilà.
Absolument.
Dernière petite question, qui s'adresse à toi et puis, Stéphane aussi, puisque je voulais savoir, est-ce que le bal des enragés va reprendre la route?
Alors, le bal des enragés devrait repartir en 2019.
D'accord.
Ouais. Et je suis pas sûr de participer au projet cette fois pour des histoires de planning, etc. Ouais, parce que j'ai un autre groupe encore, en fait, où l'album est déjà enregistré depuis un petit moment et l'album sortira pas avant la rentrée prochaine, qui s'appelle Madame Robert.
Et c'est un groupe, c'est du rhythm and blues en français.
D'accord.
En fait. Voilà, plus aux 60s de, pour le coup, avec de l'orgamon et tout ça, et avec deux anciens membres de la dernière formation de Parabellum, les bassistes, bah les deux qui restent vivants en fait,
donc
c'est,
oui,
plus, c'est plus pratique pour faire des groupes déjà. Le bassiste et le batteur donc qui étaient là les 15 et 10 dernières années de 20 ou je pense le batteur ouais a fait au moins 15 ans avec les paras, et donc voilà, c'est parce que à force de faire le bal des enragés ensemble, souvent c'est moi qui ambiance dans les afters, tu vois, avec mes enceintes et mon ordi et tout ça, et je fais DJ un peu et du coup j'étais beaucoup souvent, moi je suis un gros fan de rhythm and blues, de soul music, etc. quoi. Voilà, on dirait pas comme ça, mais voilà, c'est vraiment la musique que j'écoute le plus, c'est du blues, du rhythm and blues, la musique noire américaine des années 50 à 75, moi ça me transcende complètement. Donc il y a le bassiste Steve Zena qui me fait, mais quand est-ce qu'on se fait un groupe de rhythm and ensemble? Et au début je crois que c'était une blague, et à la troisième fois j'ai dit non mais en fait t'es sérieux, et puis voilà, on l'a fait.
Donc
voilà.
tout plein de projets
ouais,
en
ouais,
cours.
C'est bien, c'est ce qu'il faut.
Le Lofo, donc, pour le mois d'avril. Alors, ouais. Pour l'instant, on n'a pas d'extrait, mais on va quand même écouter du Lofo en version électrique.
Okay.
Et on va écouter un extrait du dernier album en date. C'était L'Épreuve du Contraire. Ça date de 2014. Et j'avais envie d'écouter Pornolytique.
Eh ben, c'est un excellent choix, je trouve.
Eh ben, c'est parti, alors.
Merci. Yeah!
C'était bien ça.
Vous êtes toujours dans l'émission Check Milode et c'est Renaud que vous venez d'entendre. Justement, on écoutait l'Ophophora, on écoutait le titre Pornolithique.
Ouais.
Un extrait de votre, pour l'instant encore dernier album.
Ouais, il y a eu un live depuis, mais bon, ça compte pour du beurre.
Et écoute, j'ai hésité à passer un extrait du live ou du studio, puis je me suis dit allez.
Bah écoute, c'est ton émission.
Un petit coup de studio, voilà. Eh ben, en tout cas, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Ça a été vraiment un très très grand plaisir pour moi de vous recevoir. Grand plaisir aussi d'avoir Apolline pour m'accompagner sur cette émission. Je rappelle que aujourd'hui c'était une émission consacrée au projet Weapons of Mass Percussion. Ce soir, rendez-vous pour ceux qui sont adhérents, rendez-vous au Silex. Pour les autres, tant pis pour vous, faudra attendre encore un petit peu.
Vous pouvez prendre l'abonnement sinon.
Sinon, il y aura une autre date qu'il faut rappeler. Apolline, est-ce
le
que tu...
20 mars au Moulin Rouge à Paris.
Non, c'est la machine.
La machine du Moulin Rouge.
Et là, pas besoin d'être adhérent, il suffit d'acheter son billet.
Très belle salle en plus.
Ouais,
on
plutôt cool. Ouais, bon endroit.
On est ensemble là-bas. Oui, j'étais venu chanter une petite chanson.
Ah, mais oui, c'est vrai ça.
Oui.
Et puis donc, petit tour de table, rappel, Frankie Costanza, Blazing War Machine.
C'est ça.
Vous pouvez encore trouver facilement les singles, donc allez écouter. Stéphane Burier, de l'actu avec l'autre Blast, avec le live. De l'actu avec Sin Senom, on va en écouter un extrait d'ici quelques minutes.
C'est un très bon choix.
Renaud de l'actu avec l'OFO très bientôt au mois d'avril avec Mudvayzer.
Bien, ça y est, quasiment
fin
déjà.
Fin février, le 23. Voilà. Et puis, Dom, ce gros projet que Weapons of Mass Percussion. En tout cas, un grand merci à toi de nous avoir permis d'avoir tous ces invités aujourd'hui. C'est très gentil, merci au tambour.
Merci à vous, surtout de nous accueillir.
Ah ça a été avec très grand plaisir.
Voilà. Et merci pour le café, on en a besoin.
Ouais. Et voilà, je crois que tout est dit pour cette émission Check Milode spéciale. La semaine prochaine, on revient dans le format initial. Vous retrouverez le tour d'horizon des sorties du moment et puis vos rubriques News from L et Sortez Cover. Là, on va se quitter avec un extrait de l'EP de Sin Senom avec le morceau Ashes. Eh bien, salut
beau,
à tous.
Très beau
salut.
Morceau.
Et puis, bon concert ce soir au Silex.
Salut.
Destroyed, buried in silence, eradicate the human.